Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, assurément, l'histoire de Corneille. Vous vous souvenez ? Oui, oui. Et une histoire formidable. Parce qu'elle nous montre comment le Seigneur est capable de nous conduire les uns et les autres, même les plus petits, les plus timides, les plus timorés d'entre nous, eh bien, comment Dieu fait de nous tout simplement ses ambassadeurs. Alors c'est vrai, nous regardons quelquefois des gens qui ont plus de capacité que nous, et nous disons, mais eux, ils sont capables, moi, je ne suis pas capable. Alors la capacité, elle est pour personne. Mais en tous les cas, par le Saint-Esprit, eh bien, nous sommes tout à fait dans la possibilité de faire des choses extraordinaires et de participer à l'œuvre du salut. Vous vous souvenez que nous avions ouvert un thème il y a une quinzaine de jours, et je vous rappelle simplement la première lecture que nous avions faite à ce moment-là. C'est Jésus qui dit ces mots. Il dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. » Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. On se souvient. Et je voudrais faire un petit récapitulatif et nous remettre en mémoire cette première partie de méditation avant d'aller un petit peu plus loin. Ça se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10. Nous lirons quelques passages d'ici quelques instants. Mais nous ouvrons cette page sur l'histoire d'un homme qui s'appelle Corneille et qui nous est présenté comme un craignant Dieu. Voilà. Alors on sait qu'il y a des sympathisants, il en fait partie, nous savons qu'il y a des disciples, il y a là différents services, différents ministères, mais lui, il n'est pas encore à ce stade. C'est un craignant Dieu, un homme qui est finalement perdu dans le monde, mais avec certaines dispositions de cœur qui va faire que Dieu voit cet homme et il va l'appeler au salut. Il va le remplir du Saint-Esprit et il va devenir un disciple avec des particularités tout à fait particulières parce qu'à partir de Corneille, la porte du salut va être ouverte aux païens. C'est-à-dire que le salut va devenir universel. Et vous allez voir que ça ne s'est pas forcément passé très facilement, mais néanmoins, Dieu arrive toujours à son plan. Parce que je voudrais simplement rappeler cette maxime, c'est quand Dieu envoie, il pourvoit. Donc il nous donne ce qui nous est nécessaire. Alors c'est un craignant Dieu, avons-nous dit, et il se caractérise, cet homme, par sa foi, et par les fruits de sa foi, que l'on appellera peut-être tout simplement des œuvres bonnes. Je préfère les présenter de cette manière. Donc un craignant Dieu. Dieu le voit, et nous voyons qu'à un moment donné, eh bien, ce nommé Corneille va avoir une révélation. Est-ce que vous croyez que Dieu nous donne qu'à nous des révélations ? Moi, je pense qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, à bien des hommes, même en dehors de l'Église. Ah, moi, j'y crois parce qu'on ne serait pas là. Personnellement, on ne serait pas là. Voilà. Donc, révélation de Corneille. Et il va avoir, comment dire, la stupéfaction du message porté par un messager inhabituel. Et nous lisons simplement, je relis, hein, simplement pour nous remettre en mémoire, il nous est dit qu'à ce moment-là, il a eu la vision d'un ange, ce Corneille, et il a vu donc, il est entré chez lui cet ange, et il lui a dit ceci, « Corneille, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Mais qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Je voudrais rappeler ce que nous avons dit précédemment, c'est que lorsqu'un homme, une femme, un chrétien prie, l'Éternel entend. Ne nous laissons pas dépasser en disant ou en raisonnant de cette manière « J'ai prié, mais Dieu n'a pas entendu, il n'a pas exaucé. » C'est faux. Dieu entend. Prions dans la volonté de Dieu. Prions selon ce que l'exemple qui nous est donné dans sa parole. Donc, le messager, un ange, le message, Dieu a entendu tes prières. Et puis, nous voyons que pour Corneille, il va obéir. Parce que qu'est-ce que c'est que la foi ? On ne va pas repasser théologiquement la foi et ses principes, son fonctionnement. Mais la foi est marquée par un acte de l'homme que l'on appelle l'obéissance. Parce que si je crois, je vais nécessairement, eh bien, il va y avoir des conséquences dans ma vie. Et je vais agir en fonction de cela. On se souvient d'Abraham, on se souvient des grands hommes de la Bible. Ils ont entendu Dieu, ils ont cru en Dieu, ils ont cru Dieu sur parole et ils ont obéi d'une manière ou d'une autre. Croire sur parole, c'est important. Ouais. C'est quelque chose d'essentiel et de fondamental. Et parce qu'il a cru le message qui lui était donné par, tout simplement, ce messager céleste ou angélique, et il nous est dit qu'aussitôt, après le départ de l'ange, ça a tellement travaillé, il a tellement été ému sous la pression de cette visitation angélique, alors à ce moment-là, Corneille envoya à Joppé chercher un homme qui devait lui annoncer l'évangile. On l'a dit la première fois, ça aurait été si simple que l'ange qui a apparu à Corneille lui annonce l'évangile. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Dieu nous a fait compagnons. Il nous a fait associés. Il nous a fait, en quelque sorte, ses ouvriers. Pas pour lui, mais avec lui. Et c'est cela, justement, la grandeur de l'Église. C'est que l'Église est appelée à servir. Parce que Dieu pourra envoyer des myriades d'anges sur la terre. Et je vous dis, en une demi-heure, le monde est converti, hein. Ou terrorisé. L'un ou l'autre, hein. Mais Dieu se sert de nous, de chacun d'entre nous. Sans invoquer ce prétexte en disant, mais Seigneur, je ne suis pas capable. Eh bien, non, vous n'êtes pas capable. Moi, je ne suis pas capable. Mais le Seigneur nous donne la capacité qui nous est nécessaire. Et puis, simultanément, au même moment où les choses sont en train de se passer dans la maison de Corneille, eh bien, on voit qu'il y a une autre vision, à quelques 50, 60 kilomètres plus loin, un homme qui s'appelle Pierre, on le connaît, Pierre. Vous savez, celui qui avait dit, je te suivrai partout où tu iras, et puis, puis qui avait renié le Seigneur. Alors, Pierre a une vision céleste, lui, de son côté, pour le même objet, pour le même but. Il rentre en extase. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de... on n'en a pas tous les jours. Vous êtes en extase tous les jours, hein? Je ne crois pas. Hein? Mais toujours est-il que Dieu parle avec différentes manières. Alors, il rentre dans une extase. Et là, à ce moment-là, il voit quelque chose qui lui est montré de la part de Dieu, une nappe qui descend du ciel avec tous les animaux de la terre. Et Dieu lui dit, mais tue et mange. Et Pierre, à ce moment-là, va refuser. Parce que il va dire, mais moi, Seigneur, je suis juif et je n'ai jamais mangé des choses impures, parce qu'il y avait toutes sortes d'animaux qui étaient impurs pour les juifs. Il dit, mais Seigneur, j'y touche pas. Hein? Je ne mettrai pas ça dans ma bouche, c'est pas possible. Donc, non, Seigneur, tu me demandes une chose trop difficile. C'est un peu souvent les arguments que nous avons. Je ne suis pas capable. Parce que il y a ceci et cela. Mais le fond du problème chez Pierre, c'est que les difficultés qu'il avait à obéir à Dieu, autant Corneille obéit spontanément, Pierre, lui, a des restrictions et des limites. Vous rendez compte, Pierre, c'est un homme qui a passé 3 ans avec Jésus, qui a vu des choses extraordinaires et entendu des choses extraordinaires, c'est lui qui refuse, vous rendez compte? C'est quand même assez curieux, hein. Alors, nous voyons que Pierre va tout simplement décliner, mais pour une raison tout à fait particulière, qui peut-être nous toucher, nous aussi, c'est qu'il a des préjugés. Ouais. Le Seigneur peut nous dire ce matin, bien écoute, moi, j'ai des hommes à sauver. Tu sais, ils sont pas très reluisants, les hommes que je vais te présenter. Ils sont pas très propres. Tu vas peut-être les considérer comme des impurs. Tu vas peut-être les considérer comme des gens de mauvaise vie, avec un passé tellement lourd que on se retire parce que déjà, à quelques mètres d'eux, on ressent qu'il y a le mal. Eh bien, c'est vers ces gens-là que je t'envoie. Et c'est vers ces hommes-là que je voudrais envoyer aussi mon Église. Parce que si tu vas rencontrer les grands et les sommités de la religion, oh, c'est sûr qu'ils vont avoir une apparence, ils vont certainement avoir un langage et peut-être qu'il pourrait y avoir des affinités, on ne sait pas, parce que voilà, ceci et cela. Mais ce n'est pas vers cela, parce qu'ils n'en veulent pas. Et jamais ils n'en voudront. Mais par contre, ceux qui sont là dans les bas-fonds, dans les égouts, dans les rues, dans les ruelles et dans tous les carrefours du monde, avec une pesanteur sur leur vie, eh bien c'est ces gens-là, parce que contrairement à ce qu'on pourrait prendre, ils vont peut-être pas à l'église, ils vont peut-être pas au temple, mais quelquefois j'ai entendu leurs prières, j'ai entendu leur misère, j'ai entendu leur chagrin, j'ai entendu leurs cris, et c'est vers ces gens-là parce qu'ils m'ont appelé. C'est ceux qui ne me cherchaient pas que j'ai été cherché, que j'ai répondu à leur demande. Et Cornel était en train de faire cette expérience, lui, le Romain, l'occupant, le païen. C'est cet homme-là que Dieu a été cherché. Alors, ne regardons pas ce qui frappe les yeux, parce que Dieu regarde au cœur. Et nous, nous devons être au diapason du cœur de Dieu. Donc, les préjugés de juifs, de Pierre, nous ne sommes pas juifs, mais nous pouvons avoir des préjugés religieux, nous aussi. Ah, oh, Seigneur, wow, c'est difficile, c'est compliqué, tu me demandes ça à moi, tu te rends compte? Moi, j'essaie de me purifier tous les jours, alors tant qu'on essaiera de se purifier soi-même, on ne sera pas pur. Si c'est le Seigneur qui nous purifie, on sera pur, d'accord? Parce qu'on vit sous le régime de la grâce. Et on s'abandonne entre les mains de Dieu pour qu'il fasse ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Pas d'illusion, nous n'y arriverons jamais. Mais avec le Seigneur, c'est possible. Alors, il lutte, Pierre, contre lui-même, contre ses préjugés religieux de juifs. Et nous avons cette leçon divine pour tout serviteur, pour tout disciple, pour tout chrétien que nous sommes. C'est le verset 15, quand Dieu lui dit... « Eh bien, maintenant, tu vas faire ceci. » Pierre lui dit, « Mais non, Seigneur, car je n'ai jamais mangé de souillé dit d'impur. » Et dans la deuxième fois, la voix se fit entendre à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Qu'est-ce que nous étions, nous, avant de nous convertir? On était pur ou on était souillé? Eh bien, on était souillé, et Dieu nous a purifiés par sa parole. Et nous devons... dans cette dimension qui doit être une dimension de compassion, de bienveillance et d'amour, aller vers ceux auxquels nous ressemblions quelque temps auparavant, pour leur dire « voilà ce que le Seigneur a fait pour moi ». Le Seigneur est capable de transformer des vies, il est capable de faire des choses étonnantes et merveilleuses. Regardez, non pas que nous sommes devenus des vedettes, pas du tout, mais toute la gloire en revient au Seigneur de ce qu'il a pu faire avec un homme, une femme qui était perdue, un homme, une femme sauvée et rachetée. Et c'est pourquoi il ne va pas utiliser les anges pour aller le dire aux hommes, il va nous utiliser, nous, pour aller dire « Regardez la preuve !» Regardez la preuve. Le plus grand et le plus beau témoignage que l'Église puisse apporter au monde, c'est pas de dire et de répéter, de faire de la doctrine et tout ce que vous voudrez de la théologie. Ça, le monde n'en a rien à faire. Et au contraire, ça lui passe au-dessus de la tête et ça lui casse les oreilles. Ce que nous avons besoin... c'est véritablement un témoin vivant de Jésus-Christ. Et que nous puissions rayonner de son amour et de sa grâce. Ça, c'est le plus important. C'est pourquoi Jésus a dit, pas tant parler, bien sûr, prêcher, parler, rendre des témoignages, mais vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Le sel, ça donne soif. Et la lumière, ça éclaire dans les ténèbres. Alors la suite, on va la voir aujourd'hui. Brièvement, quand les barrières tombent, quand Dieu nous fait passer, tout simplement, par toutes les barricades que nous avons érigées nous-mêmes, et que tout est prêt. Alors, ce jour-là, tout était prêt. Et à partir du verset 24, nous allons continuer. « Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Cornel les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Cornel, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, ce qui est défendu à un juif de se lier, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas fait d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Écoutez la suite. Cornel dit, « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Cornel, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur a ordonné de nous dire. » C'est pas beau ? Vous rendez compte que ce sont les païens qui attendent le message des chrétiens quand ils sont préparés. C'est pas du prosélytisme, mais quand ils sont préparés, c'est extraordinaire. Moi, ma prière, Seigneur, envoie-moi dans toutes les maisons de Saint-Nazaire, de France et de Navarre, et que tu prépares les cœurs et les vies pour entendre la parole de Dieu. C'est pas l'œuvre des hommes, c'est l'œuvre de Dieu. Vous avez bien entendu ? Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous voyons que il nous est dit, précisément, je relis le verset 24 et 27, « Corneille les attendait, et il avait invité ses parents et ses amis intimes. Il entra et trouva beaucoup de gens réunis. » Beaucoup de gens réunis, verset 27, où il nous est simplement dit qu'il y avait quasiment tous les gens de la maison de Corneille qui étaient là. Il avait un impact, Corneille, pour rendre témoignage, des gens aux gens qui connaissaient. Mais vous savez, ça commence déjà dans notre intimité. Hein. Alors on sait très bien que Jésus nous a prévenus, nul n'est prophète dans sa propre pratique, vous en savez quelque chose. Mais néanmoins, c'est quand même une chose. Et nous voyons que ne soyons pas trop impressionnés ni choqués des maladesses de Corneille quand il va voir Pierre, parce que quand il va voir Pierre, il va se prosterner devant lui et il va l'adorer. Alors là, il y a des choses à remettre en place. Le témoignage rendu à Jésus-Christ, il est pour Jésus-Christ, pour Dieu, par Jésus-Christ. Il n'est pas pour les hommes. Il n'est pas pour un pasteur. Il n'est pas pour une communauté. Il n'est pas pour un mouvement quelconque. Si nous devons nous prosterner, c'est Dieu et Dieu seul à travers Jésus-Christ. Et là, ce pauvre Corneille, qui était quand même ignorant de la chose, quand il a vu Pierre, remarquez, il faut dire qu'il a eu une révélation angélique, hein, ça chargeait un petit peu l'émotion, eh bien, il s'est mis devant lui et il l'adorait. Et ce que Pierre a fait à ce moment-là, eh bien, quelque part, il lui a dit, mais relève-toi, moi je suis un homme comme les autres. Vous savez, si on est prédicateur de l'évangile ou si on en est témoin de l'évangile, en tous les cas, il nous faudra beaucoup d'humilité. Parce que quand on commence à dire « je sais tout, je connais tout » et ça, c'est perdu d'avance, c'est même pas la peine d'aller plus loin. On travaille pas pour Dieu, on travaille pour soi. Ou on travaille pour sa chapelle. Ouais. Retenons bien ça, parce que, vous savez, l'adversaire s'est quand même évertué à détourner l'action de Dieu, l'action du salut de Dieu, en envoyant les hommes qui avaient besoin de la grâce de Dieu, qui aspiraient à la grâce de Dieu, il les a envoyés à adorer la créature au lieu du Créateur. Et beaucoup de religions, y compris chrétiennes, sont tombées dans ce piège. Et nous-mêmes, ne nous méprenons pas. Quand vous avez affaire à un pasteur ou un prédicateur ou un évangéliste de talent, ce n'est qu'un homme. Quelquefois, nous l'avons entendu, souvent dans les églises, en disant « mais il est formidable, il est merveilleux, mais celui qui est merveilleux, c'est le Seigneur. » Et là, on se trompe, mes frères et sœurs. Et même nous-mêmes. On doit avoir de la considération pour celui qui sert. Mais il faut le laisser à sa place. Et on n'a pas à surfer, on n'a pas à vouloir enfler, gonfler finalement, eh bien une situation parce que bon, il y a un talent oratoire, parce qu'il y a une présentation sous une forme ou une autre qui séduit. Merci Seigneur. Et moi je bénis le Seigneur qu'il y ait des gens qui, eh bien, ont des talents particuliers ou des dons particuliers. Mais ne nous pâmons pas et ne perdons pas la tête, parce que on va voir le miracle et on va voir des choses comme ça. Le miracle, c'est le Seigneur, c'est pas l'homme. Et ça, c'est important. Et l'Église a besoin d'être assainie par rapport à cette mentalité. Pierre a raison. Il dit à cet homme, eh bien, lève-toi, moi, je n'ai rien de plus. Hein. D'ailleurs, il le dira dans une autre circonstance, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Et tout serviteur de Dieu, vous également, en tant que témoin et ambassadeur où Dieu vous a placé, nous ne sommes que des hommes et nous n'avons pas à essayer d'exploiter ou à surfer sur, quelquefois, eh bien, un mouvement sentimental qui existe parce que c'est humain et naturel. Mais n'en demandons pas trop, hein. C'est pas la peine. Vous savez, Jean-Baptiste l'avait bien compris parce qu'il le dira, hein. Il faut que je diminue afin qu'il croisse. Et ça, c'est essentiel. On a travaillé dans notre mouvement charismatique où il y a des dons spirituels, où il y a, je crois, encore des miracles et des choses formidables, mais on a tellement prêté attention à des ténors de l'estrade. Je respecte ces gens. On n'est certainement pas à la hauteur de ces gens. ils sont encore vivants ou ils sont partis. Mais toujours est-il que, quelque part, ce n'est pas l'homme qui compte, c'est le Seigneur, c'est l'œuvre de Dieu. C'est ce que le Seigneur fait par le Saint-Esprit. On s'est embarrassé très souvent, et on s'est même fourvoyé dans nos milieux, dans nos églises, avec ce genre de méprise. Bénissons le Seigneur qu'il envoyait des hommes. Et vous savez, ce qui est important, ce n'est pas de bien parler, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, parce que on a eu quelquefois des leçons humiliantes, avec des gens, prédicateurs qui ne savaient pas dire, qui ne savaient pas parler, qui bafouillaient. Mais quand ils étaient sur l'estrade et remplis du Saint-Esprit, extraordinaire. Extraordinaire! Je me dis, mais Seigneur, tu te glorifies justement à travers la faiblesse et à travers la petitesse. Mais soyons humbles, de grâce soyons humbles, parce qu'autrement on va se prendre la tête et nos chevilles vont enfler et on va être obligé de changer de chaussure. Et on ne marchera pas sur la même route. Que Dieu nous donne sa grâce. Et là, quand Pierre commence à parler, on sent son discours quelque peu embarrassé du genre. Quand il va rentrer dans la maison de Cornèle, il va dire ces choses. Cornèle, il va peut-être remercier, je te remercie pour ton invitation, etc., etc. Mais il lui dira, il fera comprendre, je paraphrase un petit peu dans cette pensée, tu sais Cornèle, je suis ici avec vous, mais ma conscience, ah oui, ma conscience m'embarrasse. Ma conscience, tu sais, ça me gêne, je suis quand même là. C'est le verset 28 qui nous dit ça, parce qu'il le traduira. Il dira, vous savez, dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris, oui, oui, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Dieu m'a enseigné, Dieu m'a éduqué, Dieu m'a qualifié à ne regarder que ce que Dieu regarde et voit et accepte. Ça, c'est quelque chose. J'ai appris. Et ça s'apprend. Les uns et les autres, nous sommes en apprentissage. Et nous ne sommes pas à l'école des hommes, nous sommes à l'école de Dieu. Ma conscience. Oui, Pierre, tu es un bon juif. Tu as toujours respecté la loi. Tu aimes la loi de Dieu. D'accord, c'est bien. On ne va pas dire le contraire. Mais vous savez que Dieu est au-dessus de la loi. Bien au-dessus, au-dessus de la loi. Hein. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas mes voix. Dixit, le Seigneur qui parle à Ésaïe pour qu'il nous donne finalement la retransmission. Mais si c'est Dieu qui le demande, ah, ça change tout. Parce que quand Dieu demande, eh bien, il va nous donner tout ce qui est nécessaire. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. La souplesse, la flexibilité du chrétien. La souplesse, c'est la capacité d'évaluer les besoins de l'interlocuteur ou de nos interlocuteurs. Et l'invitation à parler revient tout simplement à Cornèle par cette parole esquisse au verset 33, où il est dit cette parole, c'est ce mot, « Aussitôt j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Il y a une chose exquise, délicieuse pour un témoin de Jésus-Christ ou pour un ambassadeur que nous sommes disciples, c'est quand quelqu'un nous dit « Parlez-moi de votre Dieu. Parlez-moi du Seigneur. » Ça, c'est... Wow, c'est extraordinaire, non? Parce que c'est quand même quelque chose qu'on n'entend pas tous les jours. Hein. Ouais. J'ai faim, j'ai soif. Seigneur, embrase-nous de ton feu pour que nous puissions vraiment être prêts, je dis bien prêts, débarrassés de toutes nos scories, toutes nos pensées préconçues, toute notre religiosité, nos préjugés pour aller nous trouver là, dans l'endroit, au bon endroit, auprès de la bonne personne, dans le bon lieu et au bon moment, pour celui qui a faim et soif. Quand il dira ces paroles, mais nous sommes là pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Ah, c'est extraordinaire. Il y a une belle promesse dans la Bible, où c'est Dieu qui dit cela dans l'Ancien Testament. Ça nous précède. Hein. J'enverrai la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Prions pour que Dieu envoie la faim et la soif parmi les hommes d'entendre les paroles de l'Éternel. Or, nous sommes dans une société, la nôtre, une société quand même assez particulière, dans notre vieille Europe, ouais, qui a été rassasiée de christianisme. Et aujourd'hui, où c'est frappé d'indifférence, de moquerie, de désinvolture, où les gens ne veulent plus rien entendre parler quand il s'agit de Dieu. Notre pays est moribond. Il est exsangue. C'est terrible. Et vous le savez aussi bien que moi. C'est dire, c'est dur, c'est difficile de faire de l'évangélisation dans notre Europe, dans notre monde. Terriblement dire. Difficile. Alors, on voit la soif et la faim. Ensuite, nous avons devant nous, dans le texte qui va suivre, un magnifique schéma de prédication en abrégé où perce de temps à autre les préjugés de Pierre le Juif, c'est certain, mais enfin, l'essentiel y est quand même. Alors nous allons voir en quoi ça consiste, et l'annonce de l'évangile par Pierre est magistrale. Dieu ne s'est pas trompé quand il a envoyé Pierre, même si Pierre n'était pas tout à fait prêt, parce que cette prédication qu'il va donner, elle donne la foi. Comme Pierre le dira plus loin, il l'écrira, ce qui donne la foi, c'est la parole de Christ. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ne reculons jamais d'un pas. Je crois que nous sommes dans une communauté, une église chrétienne, évangélique, et je crois qu'au cœur de cette église, ça doit être la prédication. D'une manière ou d'une autre, pour l'instruction des chrétiens, mais également l'évangélisation. Moi, c'est ce que Dieu m'a demandé de faire. Hein. Et on va le faire jusqu'au bout. Avec la grâce de Dieu, prêcher la parole de Dieu, prêcher l'évangile. Alors on va le lire et vous allez voir que c'est quand même assez particulier. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, d'accord, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous, les Juifs comme les autres. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Christ, Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Voilà la prédication évangélique. Voilà la prédication de Pierre. Voilà la prédication qui a été donnée pour la première fois dans l'histoire dans une maison païenne. Ça, c'est tellement important que nous puissions véritablement eh bien, comprendre cela. Dans cette articulation, nous avons d'abord une vérité élémentaire de l'universalité du salut. Il nous est dit, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. D'accord ? Dieu a donné Jésus-Christ pour sauver tous les hommes. Ça, c'est la première chose. Point de favoritisme, et qu'en toute nation, celui qui le craint. Donc, Cornelle, tu es tout à fait dans la configuration. Celui qui le craint, eh bien, lui est agréable. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus nombreux en dehors qu'en dedans, et des gens qui ont certainement une crainte et un respect de Dieu, et qui n'attendent que l'Église se mobilise pour aller vers eux, selon ce que Dieu nous conduira à faire et à dire, pour entendre la plénitude du message de l'Évangile, dans sa simplicité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'hésitation des Juifs. Au verset 36, il nous est dit, mais d'abord il a envoyé, et Pierre il est toujours en train de revenir un petit peu en arrière, il dit, mais vous savez que il a d'abord ce Dieu que je vous propose, c'est un Dieu qui a d'abord envoyant, il a déjà parlé au peuple d'Israël, mais depuis des siècles et des siècles. Alors, maintenant les choses vont changer parce que ça va être le monde entier qui va entendre parler. Et puis, l'œuvre de Jésus est donnée en résumé, son ministère de paix et de relèvement, on l'a lu il y a un instant. son injuste condamnation à mort et sa résurrection, le verset 39 et le verset 41. L'ordre d'attester au peuple, tout simplement, qu'il est juge de tous. On aura tous des comptes à rendre, non pas à l'Église, non pas au pasteur, mais au Seigneur. Et si nous devons craindre, avec, dans le mot craindre, respectueuse et aimable, eh bien, c'est le Seigneur et non pas le pasteur. Je suis en train de tout casser, là. Écoutez, je vais bientôt partir à la retraite, je ne vais pas vous emmener avec moi. Parce que la famille va être grande. Hein. Non, il y en aura un autre qui prendra la place. Et autant nous pouvons avoir de la communion fraternelle et de l'amour les uns pour les autres, en tous les cas, moi, je veux travailler. Et comme Pierre voulait le dire, et comme je crois ce qui est digne d'un pasteur, c'est pas d'attacher les gens à lui, c'est de les attacher à Jésus-Christ. Dixit Paul qui le dit, hein. Mais oui. Et je pense que ça, c'est important. Et c'est là où nous devons donner la perspective de notre vie. C'est là où nous devons suivre cette trajectoire, c'est Jésus et Jésus seul. C'est important. Parce que combien de chrétiens craignent les hommes et ne craignent pas le Seigneur? Ah, si le pasteur sait. Ben, soyez rassurés parce que je suis loin de savoir tout. Hein. Et heureusement pour moi. Eh oui. Ben oui, mais si le pasteur savait, ben si je sais quelque chose que vous avez besoin de me dire, je suis pas là pour vous juger, vous le savez maintenant, hein, fait 8 ans qu'on est avec vous, je suis là pour vous aider. Pour vous aider, et pas pour vous juger. Ça, il faut le comprendre. Parce que on est semblables les uns les autres, on a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Pierre dira dans son message, il dira que l'évangile n'est pas une idée nouvelle, puisque les prophètes ont déjà préparé les choses. Enfin, Jésus est le sauveur de quiconque croit. Vous savez, c'est Jean 3,16, ça, hein ? Si je crois, ben je suis sauvé, tout simplement, verset 43. Vraiment qu'il est difficile, même aux apôtres, d'assimiler l'impératif. Cet impératif, je l'ai appelé interculturel universel. Parce que nous sommes souvent enfermés dans notre petite idée. Ouais. Notre petite église. Notre petite vie. Notre petit pasteur. Oh. Et puis, tout est petit. Parce que ça, c'est un langage que nous avons dans notre français. Oui. C'est bien sympathique, tout ça. Mais Dieu voit plus grand que ça. Excusez-moi, mais Dieu voit beaucoup plus grand que ça. Pierre avait du mal à ouvrir les yeux et puis voir qu'il y avait un monde qui était beaucoup plus vaste que notre environnement. J'espère que je ne vous choque pas ce matin, mais c'est ça. Ouvrez votre cœur, dira Paul. Votre cœur s'est rétréci. Ouvrez et élargissez votre cœur. Nous, on a envie de vivre des belles aventures avec le Seigneur. De sortir un petit peu de notre précaré, comme on dit, pour aller beaucoup plus loin. Ouais, il est difficile aux apôtres d'hier, à Pierre en particulier, à nous, d'assimiler cet impératif interculturel universel qui veut que, pour qu'il n'y ait qu'un seul troupeau et qu'un seul berger, nous l'avons lu tout à l'heure. Seigneur, je me réjouis que l'église locale, et je bénis parce que je suis heureux dans l'église locale. Moi, je vous le dis, hein, jusqu'au jour où vous ne voudrez plus de moi, mais je suis heureux dans l'église locale. J'ai été pasteur dans d'autres églises et je suis pasteur ici. Je suis heureux, je le dis. Parce qu'un pasteur heureux, il peut rendre quand même l'église heureuse. Un pasteur malheureux, il va faire pleurer tout le monde. Alors, je le dis, mais moi je bénis le Seigneur de ce que l'église est aussi universelle. Il y a des frères qui sont là, aux antipodes, aux extrémités de notre monde à nous, sur toute la surface de la terre. Alors, je serai peut-être choqué si je les vois faire des choses qui ne sont pas communes ou qui ne sont pas dans les us et coutumes de notre monde à nous. Mais nous sommes dans un pays avec un passé très ancien, romain, latin, catholique. Voilà, tout simplement. Et je viens croire que sous d'autres cieux, eh bien, il y a des gens qui vivent les choses d'une autre manière. Mais ce qui compte, c'est que si la base qui nous réunit, c'est Jésus-Christ, la repentance, la conversion et la nouvelle naissance, eh bien, moi, ce sont des frères et des sœurs. Baptisés du Saint-Esprit, ce sont des frères et des sœurs. Il n'y aura qu'un seul troupeau et un seul berger. Et il faut aller, il faut entrer là où Dieu nous ouvre les portes, et il faut prêcher ou témoigner. C'est ce que Pierre a fait. Là où les belles, où les brebis égarées se trouvent. Vous vous rendez compte? Un Romain, un soldat, un païen.
Wow.
Ouais, un païen. Seigneur, on ne veut pas avoir l'esprit de ce pharisien qui rentre dans le temple et qui dit, tu sais Seigneur, tu dois être content de moi parce que quand même, t'as vu tout ce que je fais? J'ai bonne mine. Et puis je donne ma dîme. Je fais ceci, je fais cela. Moi je ne suis pas comme... C'est celui qui est derrière, tu l'as vu? Le Seigneur a dit, ah ben non, je ne l'ai pas vu, encore celui-ci. Mais le Seigneur voit tout quand même. Portons les yeux vers ce qui est positif. Et il dira, cet homme, ce pharisien, il dira, mais je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont là, menteurs, adultères, voleurs et tout ça. Bien sûr, le monde est comme ça, c'est vrai. Mais le Seigneur voit aussi les hommes qui sont dans cet état pour les sauver. Pour les sauver, tout simplement. Alors, je le disais il y a un instant, l'annonce de l'évangile par Pierre est magistrale. Et puis, nous allons terminer sur quelque chose qui nous touche profondément. C'est ce que Jésus nous dit en substance, et il va nous donner tout ce qui est nécessaire. Jésus dira, après avoir rencontré la Samaritaine dans cette ville de Samarie, il dira à ses disciples, « Allez, levez les yeux et regardez, les champs blanchissent déjà pour la moisson. » En vous le disant, je ressens véritablement un tressaillement de joie. Oui, je le dis. Les champs blanchissent pour la moisson. Peut-être vous allez me répondre, mais Alain, il faut que tu prennes tes lunettes. Elles sont là, hein. Oui, il faut que tu prennes tes lunettes parce que regarde notre monde comment il est. Regarde, il est desséché. Nous sommes dans le désert. Nous sommes au Sahara. Regarde, à perte de vue, on voit des gens qui n'ont pas besoin de Dieu en apparence. Qui se moquent de Dieu, qui n'ont rien à faire de la Bible, de l'Évangile et puis tout le reste. Surtout pas de l'Église, alors ça c'est encore autre chose. Tu vois pas? Ben moi je vois ce que le Seigneur me demande de voir. Allez et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Seigneur, toutes les chaises qui sont vides ce matin. Ouais? Ben moi je veux pas dire, je regarde les chaises vides, je regarde déjà les chaises qui sont pleines et je vous salue. Au nom de Jésus-Christ. Parce que je veux regarder au positif et non pas au négatif. Et je veux croire que quand je regarde une chaise vide, je dis Seigneur, et on le fait avec Myriam, tous les jours, on dit Seigneur, non pas pour faire de la quantité, mais qu'il envoie des gens vraiment bien convertis, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, envoie-nous des Cornels, vous m'avez souvent entendu prier comme ça, envoie-nous des Cornels, envoie-nous des Lydies, envoie-nous des Zachées, envoie-nous des Siméons, envoie-nous des Eunuques, vous savez, vous connaissez toute l'histoire, c'est extraordinaire, Dieu les a pris, il leur a dit, maintenant vous êtes mes enfants, c'est formidable. Parce que chacun d'entre nous, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est ce qu'il a fait, c'est pas vrai? Mais bien sûr c'est ce qu'il a fait, il a été nous chercher là où nous étions complètement dans l'ignorance et un petit peu embourbés dans un petit peu beaucoup. Et il a fait de nous des enfants de Dieu. Alors pourquoi il l'a fait pour nous? Il ne le ferait pas encore pour aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y aurait plus d'hommes sur la terre? On est bientôt 7 milliards. Il y a du travail. On va pousser les murs. Seigneur, tu vois ce que je ne vois pas, mais je te fais confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Et les moyens que nous pouvons utiliser, eh bien, c'est l'église locale, c'est les témoignages, c'est ceci, c'est cela, c'est la prière, c'est beaucoup de choses. Et puis c'est des moyens qui vont au-delà de nos murs, Et moi, je me réjouis, vraiment, je me réjouis que Dieu, en arrivant à Saint-Nazaire, nous a donné une opportunité de faire connaître la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Vous avez compris ce que je veux dire? Par les moyens modernes. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'on a quand même des réponses. Un jour, il y a quelqu'un qui vient me dire en disant, tu sais, ton histoire là, de messages sur les médias, net et tout là, ça marche pas. Ça marche pas. Ben, moi, je lui ai laissé avec son avis, mais en tous les cas... Moi, je ne discute pas sur ces choses-là. Si le Seigneur nous a ouvert une porte, et que peut-être d'autres ne comprennent pas, mais ça, je respecte qu'ils ne comprennent pas. Mais toujours est-il que, une chose qui est certaine, c'est que si on peut faire du bien, partout où Dieu nous a placés, et partout où Dieu nous montre, eh bien, moi je dis merci Seigneur. Et vous savez, je suis en mission. Je suis un missionnaire, ça se voit pas. Je suis un missionnaire qui reste sur place. Voilà, vous avez compris ce que ça veut dire. Et la parole passe. Et ça, c'est formidable. Je termine. Il est dit à un moment donné, après la prédication ou pendant la prédication de Pierre, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous, sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ouais. Au moment de la parole de Dieu, non pas du messager, mais le message, porteur et chargé du Saint-Esprit, vous savez ce qui s'est passé ? Le Saint-Esprit est venu dans l'assemblée, et là, à ce moment-là, il était répandu. L'Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. C'est en écoutant la parole, c'est en faisant foi à la parole que le Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous. Je vous le rappelle, enfin j'en ai déjà parlé, mais je me souviens d'un jour de Pentecôte, dans l'église précédente où j'étais, je prêchais sur la Pentecôte, Actes chapitre 2. Et au moment où je prêchais pendant la prédication, spontanément, il y a eu plusieurs baptêmes du Saint-Esprit à ce moment-là. Ils écoutaient la parole, ils ont cru et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Extraordinaire. Et combien de fois nous avons fait des colonies de vacances avec les enfants. Alors c'était encore formidable parce qu'on réunissait les groupes et à un moment donné, il y en a un qui était baptisé du Saint-Esprit. C'était des dizaines qui étaient baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça existe encore pour nous aujourd'hui. Hein. C'est encore une vérité. Alors il est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Vous qui n'êtes pas baptisés du Saint-Esprit, je souligne, venez écouter la parole, lisez la parole, demandez d'être rempli du Saint-Esprit, baptisez du Saint-Esprit, le Seigneur va le faire. Même au moment où je suis en train de vous parler, parlez en langue, rempli du Saint-Esprit. Moi, j'y crois. Voilà, comme ça vous savez tout. Tous les fidèles, juifs, hein, je dis circoncis, juifs, hein, qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Mais Seigneur, les autres ne seraient pas des hommes ? Il n'y aurait que les Juifs qui seraient des hommes ? Mais tous les hommes sont des créatures de Dieu. Mais Dieu n'est pas seulement le créateur, il veut devenir le rédempteur de toute l'humanité, tout simplement. Et pourquoi ? Parce que il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit. Les gens qui viennent pour les premières fois dans notre... et qui ne sont pas avertis, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça ? J'entends des choses qui sont étranges. Ouais. Bah, lisez 1 Corinthiens, chapitre 13, chapitre 12, 13 et 14. Le 13 est très important, hein, parce que les charismes, ça s'accompagne des fruits. Je le dis au passage. Parce qu'on a tellement fait de battage en disant les dons, les dons, les dons, les dons. Mais quand les dons sont, quand les fruits sont absents des dons, ben je peux vous dire que c'est pas un témoignage crédible. Hein. C'est pas un témoignage. Il faut les deux. C'est pour ça qu'au plein cœur de ces trois chapitres, il y a celui qui s'appelle le chapitre 13 et qui est le chapitre de l'amour. Alors, il parlait en langue. Ça s'appelle la glossolalie. Ça va ? Ouais. Parler en langue sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu qui nous remplit, qui nous envahit. Une langue que nous n'avons jamais apprise. Comme dans le livre des Actes, au chapitre 2, Jésus leur avait dit, « Eh bien, attendez de recevoir le Saint-Esprit, vous serez mes témoins, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui surviendra sur vous, et vous serez mes témoins, mes ambassadeurs, à Jérusalem, en Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Merci Seigneur pour le réveil de Pentecôte. Hein. Merci Seigneur. Et nous-mêmes, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de nous édifier nous-mêmes. On est pauvre. Je suis pauvre dans ce domaine, je le dis ouvertement. J'ai besoin. Seigneur, donne-moi toujours cette impulsion d'avoir besoin de prier par le Saint-Esprit. Quand je ne sais plus prier en français, dans ma langue maternelle, donne-moi d'être rempli du Saint-Esprit. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous ? Normalement, dans la chronologie, c'est le baptême d'eau et ensuite le baptême du Saint-Esprit. Mais voyez que Dieu n'est pas limité dans les lois qu'il a créées. Et ça, c'est un miracle. Il a commencé à baptiser du Saint-Esprit, ensuite le baptême d'eau. Peut-on refuser les eaux du baptême ? C'est pour ça que quand nous envisageons un service de baptême et que quelqu'un vient me voir en disant « Eh bien, moi, je suis baptisé du Saint-Esprit », alors là, il n'y a aucune difficulté. Il n'y a pas de difficulté pour les autres non plus, hein, s'il y a un bon témoignage crédible de vie nouvelle. Il y a quelque chose de formidable qui est à faire à chacun et à chacune. Vous avez la foi. Je parle pour ceux qui nous rejoignent. Vous avez la foi. Vous croyez dans le Seigneur. Obéissez-lui. Donnez-lui la preuve que vous croyez dans le Seigneur en vous engageant, en vous faisant baptiser d'eau. Et après, il vous baptisera du Saint-Esprit. Le Seigneur est vivant. Hein. Le Seigneur est puissant. Parce qu'à ce moment-là, je deviens à part entière un enfant de Dieu. Je rentre dans la famille de Dieu. Je deviens un disciple. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. De savoir que, comme David le disait, « Mais le Seigneur est mon aide, il est mon soutien. » C'est formidable de le savoir à nos côtés. Alors il ordonna qu'il soit baptisé au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Que Dieu nous bénisse ce matin. Ça va? C'est bien? Il y a quelque chose, hein? Moi, je dis qu'il y a quelque chose. L'Église est en préparation pour de nouveaux services, une nouvelle consécration. Et on ne va pas s'arrêter là. Parce que même s'il y a un refouille, même si c'est la marée basse, hein, on peut le dire, hein, c'est la marée basse dans notre monde. Mais moi, je veux croire que la marée, elle va remonter après. Et elle remontera très haut. Et il faut y croire encore. Je ne veux pas me décourager. Je ne veux pas baisser les bras. Et on va continuer à annoncer l'Évangile et à prier le Seigneur. On va prier maintenant. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu es merveilleux, mon Dieu. Tu es merveilleux parce que nous pouvons dire, Seigneur, tu as donné la parole aux hommes. Et la parole, c'est tout. La parole, c'est Christ. Christ vivant, Christ incarné, le Verbe. La parole, le Logos. Et nous voulons te rendre grâce pour cela. Merci, Seigneur, que tu aies fait du bien à mes frères et mes sœurs. Que tu nous aies aidés, Seigneur, à regarder en haut et non pas regarder vers les hommes, regarder vers notre petitesse, notre pauvreté, notre indigence morale et spirituelle, mais à regarder vers celui qui est tout-puissant. Alors nous voulons te rendre grâce et te remercier. Tu nous bénis, Seigneur, tu nous fais grandir. Et moi, je veux te prier particulièrement pour ceux qui sont au milieu de nous, les craignants Dieu, les sympathisants, Seigneur, ceux qui veulent s'approcher de toi de tout leur cœur. Je te prie pour tous ceux, Seigneur, qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas encore là. Mais, Seigneur, c'est toi qui vas les réunir au peuple de sauvés, au peuple des enfants de Dieu. Seigneur, entends notre prière, comme tu as entendu la prière de Cornel hier. Sauve, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci dans le nom de Jésus. Amen.